Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Alternative Football.
Salut mon pote, j'espère que ça va. Dis-moi, je réfléchissais au sujet du prochain épisode et je me disais que ce serait top d'avoir quelqu'un qui est au carrefour des choses qu'on a évoquées cette saison. Donc tu vois, dirigeant de club qui soit a bossé, soit bosse avec un fond. Donc quelqu'un qui pourrait nous parler de tout ça avec un regard assez froid. Écoute, je ne sais pas si dans tes contacts, tu as quelqu'un comme ça, mais ce serait top.
Ouais, salut mon beau. Et qu'il ait marqué un but en finale de Champions League, qu'il soit champion du monde. Et tu veux tout en fin de compte. Non, ce serait top. Mais un mec comme ça qui pète pas les plombs devant les caméras, ben, il n'y en a pas beaucoup en fin de compte. Mais écoute, je vais essayer de voir. Yo, trouvé. En 4, Octree, Media One, troisième œil. Stade Malherbe de Caen. Tu dis quoi ? Tu dis Pierre-Antoine Capeton ? Bingo. Bon, écoute, c'est fait. Le rendez-vous est pris. Je t'envoie l'adresse. Oui, parce qu'on joue à l'extérieur sur cet épisode-là. Allez, je t'embrasse. À toutes.
Alternative Football. Alternative Football. Alternative Football.
Beaucoup en parlent.
On parlera de l'effectif, de la gestion de l'effectif.
Trois mois, ils jouent les deux contre les gars.
Mais peu le connaissent vraiment.
Parce que tu sais que malheureusement, il n'y a pas que le foot dans la vie.
Alternative Football. Alternative Football. Le podcast hors terrain de SoFoot, présenté par Édouard Cissé et Mathieu Lille Palette.
Salut à tous. Bienvenue pour ce nouveau numéro ou épisode, c'est selon, d'Alternative Football. Salut Édouard.
Salut Mathieu.
Comment tu vas ?
Ça va très bien et toi ?
Écoute, ça va pas mal, d'autant qu'on est en très bonne compagnie, puisqu'on est avec Pierre-Antoine Capeton. Alors, comment on te présente ? Parce qu'il y a le sujet qui nous rassemble, c'est le football, président du conseil de surveillance du Stade Malherbe de Caen, mais tu as avant ça et en parallèle beaucoup d'autres activités.
Aujourd'hui, je me définis comme un entrepreneur.
D'accord.
Mon premier métier, c'est l'audiovisuel. J'ai créé une société de production qui s'appelle Troisième Œil il y a 20 ans, qui était toujours connue pour produire des émissions comme C'est à vous, notamment sur France 5. Et depuis 6 ans, j'ai la chance de diriger un groupe qui s'appelle Media One, dans lequel je suis associé avec Xavier Niel et Mathieu Pigas, et qui est une structure dédiée au contenu premium en Europe. On a à peu près une soixantaine de sociétés qui produit des films de cinéma comme Bac Nord ou Le Loup et le Lion actuellement dans les salles, de la fiction avec des séries comme 10% ou HPI, des dessins animés, des documentaires, pas mal de documentaires de foot puisqu'on a fait ceux sur Nicolas Anelka, qu'en ce moment on fait celui sur Paul Pogba et voilà, c'est un univers très proche du nôtre et puis qui s'est développé à l'international.
Ouais.
Ça c'est mon activité première et à côté de ça, j'ai mes entreprises de plaisir. Un groupe de restauration qui s'appelle Loulou, avec des partenaires. Un hôtel à Trouville, qui s'appelle le Flaubert. J'en profite, je fais de la pub. Et puis, ma passion de toujours, qui est le football. Et donc, le Stade Malherbe de Caen. Je suis entré comme actionnaire il y a maintenant 5 ans. Et je suis président du conseil de surveillance depuis 18 mois.
Ah ouais. Moi qui pensais que j'étais un entrepreneur.
Ouais. Ça t'a détendu, là?
Non, parce que les gens, ils disent, putain, tu fais beaucoup de choses. Ouais, en fin de compte, non, pas tant que ça.
Alors, on a plein de choses à se dire, mais tu sais, il y a une tradition dans Alternative Football, c'est qu'on pose la question, en tout cas le sujet principal, un peu de but en blanc au départ. Tu as eu l'occasion de te présenter, donc tu es un grand patron, un patron de groupe. Notre question aujourd'hui, c'est est-ce qu'un grand patron fait-il un bon président pour un club de foot ?
Ça dépend, et pardon, la réponse n'est pas claire, mais parce que le monde du foot a tellement évolué ces dernières années. Il est passé d'un secteur avec des patrons régionaux qui étaient passionnés de foot à des entreprises qui sont là pour beaucoup, pour faire de l'argent. Et donc, y a des présidents exécutifs et puis il y a des propriétaires. Donc, tout dépend de là où vous mettez le niveau de présidence. Mais il y a plein d'exemples de très grands patrons d'entreprise qui ont fait des piètres présidents de clubs de foot et
des
à l'inverse.
Des exemples ?
Non, on les connaît. Mais on va revenir dessus.
Ouais.
Et puis de petits chefs d'entreprise qui font des très grands présidents de football. Ouais. Donc c'est assez intéressant.
Et donc toi, quand tu l'as dit, entreprise de plaisir,
ouais.
C'est pas que plaisir. Tu veux quand même que Stade Malherbe de Caen
bien sûr.
Performe, parce que tu pourrais nous expliquer un peu. Est-ce que tu es allé chercher un fonds d'investissement
Bah, c'est une longue histoire. Et d'ailleurs, l'histoire du Stade Malherbe de Caen. D'abord, première chose, je suis là pour donner de leçons à personne. Et j'étais extrêmement flatté que vous me proposiez de participer à votre émission, qui est très bonne. Mais ça me permettait de raconter la transition du Stade Malherbe de Caen, qui est passé d'un club, j'allais dire amateur dans sa structure, avec 13 copains entrepreneurs de Caen qui étaient à la tête de ce club, à comment il s'est transformé maintenant vers un club avec un fonds d'investissement américain, et tout en essayant de garder sa tradition normande. Et ce côté d'amateur à plus professionnel, de structure qui n'était pas là pour gagner de l'argent, à peut-être un club qui est là pour rentabiliser un peu plus, c'est une transformation intéressante de notre secteur et qui pourra peut-être de répondre à cette question.
On a prévu justement d'étayer et de t'assister dans la réponse avec divers exemples et cas pratiques. Mais je pense que la chose qui était importante pour commencer, on en parle parce que c'est une confusion qui arrive parfois dans le football pour les gens qui ne sont pas forcément du métier, c'est la différence entre ton rôle au Stade Malherbe de Caen aujourd'hui, qui est président du conseil de surveillance, et la fonction de président du club, qui est quelque chose de différent et qui est occupé aujourd'hui par Olivier Piqueux.
Oui.
Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la différence en termes de responsabilité et d'investissement dans le club ?
Alors, le Stade Malherbe de Caen, et je repars un tout petit peu dans le passé pour bien l'expliquer, c'était un conseil de surveillance, c'est-à-dire plein d'actionnaires, avec un président qui était Jean-François Fortin, qui était lui-même le président opérationnel du club. Président opérationnel, c'est celui qui est là au quotidien, en tout cas qui doit être là au quotidien, prendre les décisions sur le sportif, sur tout ce qui a un rapport avec le commercial du club, et un vrai lien au quotidien au sein du club pour les décisions sportives, administratives et financières. Nous, les actionnaires, avec Octry en l'occurrence, Vincent Catherine, on est là pour donner une feuille de route et donc dire, dans les moments les plus importants, voilà ce qu'on souhaite. On souhaite que le club soit sur la formation. On souhaite que commercialement, un garçon comme Aurel San, qui est très important dans l'écosystème de Malherbe, puisse participer. On souhaite qu'on ait un entraîneur sur le long terme avec une politique sportive qui soit comme ça. On donne les lignes, on les donne à Olivier Piqueux, il a sa feuille de route ensuite pour pouvoir faire son quotidien. L'avantage d'un garçon comme Olivier, c'est quelqu'un qui connaît extrêmement bien le sportif et donc est capable d'accomplir pas mal des missions qu'on lui a données. Mais donc, le vrai président du club aujourd'hui, c'est Olivier Piqueux. Moi, j'ai le rôle de président du conseil de surveillance parce que la structure du club est comme ça. Il y a un conseil de surveillance et un directoire. On l'a fait parce qu'à l'époque, Media One, quand elle était cotée, constituée avec un conseil de surveillance et un directoire. Le directoire répond au conseil de surveillance. Mais honnêtement, c'est une organisation qu'on a souhaité plus simple, et on est à trois à diriger ce club.
D'accord.
Vincent Catherine du côté d'Octry, Olivier Piqueux au quotidien, et moi de mon côté, avec une répartition des tâches qui est assez simple aujourd'hui. Olivier fait toute la partie sportive et tout le quotidien. Moi, je suis un peu plus proche des institutions et de la partie communication média, et Octry sur toute la partie business finance. Et ça met un peu de temps à se mettre en place, mais maintenant, ça fonctionne.
Alternative football.
Et donc, parmi les questions que ça a générées, tu as parlé de... J'ai beaucoup aimé ta formulation, parce que je maintiens que c'est quand même le cœur des métiers qu'on choisit quand on est dans le sport. Tu as parlé de passion.
Oui.
À quel point tu échanges avec Olivier Piqueux, notamment sur la partie sportive, à quel point il te reporte? Et la raison pour laquelle je te pose cette question, c'est que pour un passionné, ça doit être très difficile. Tu dois avoir envie d'aller sur le sujet sportif, de te laisser un petit peu griser par les sujets qui lui ont été confiés. Est-ce que tu as besoin de te réfréner? Est-ce que tu gères ça de manière hyper pro et il y a des reportings? Quelle est la méthode?
L'avantage que j'ai, c'est que j'ai un passé dans le foot à travers des camarades. Alors Robin Leproux, qui est un... J'ai dans mes très proches, j'ai Robin Leproux qui était patron du PSG, et j'ai vu son expérience dans une période qui était compliquée pour le Paris Saint-Germain, qui n'était pas celle d'aujourd'hui. J'ai vu à quel point il avait pu, en faisant un travail exceptionnel, souffrir par certaines de ses décisions, puis qu'il n'avait pas le contrôle de tout. Et je suis aussi très copain avec Vincent Labrune. C'est mon meilleur ami. Et avec Vincent, j'ai vu l'OM de très près, dans les très bons côtés et aussi dans les côtés terribles avec une pression très forte à la fin quand l'actionnaire ne voulait plus investir et que lui représentait ça auprès des supporters et donc souffrait à titre personnel de quelque chose qui ne lui appartenait pas. Et donc j'ai essayé de faire de ces deux exemples quelque chose d'efficace pour le Stade Malherbe de Caen. Oui, j'adorerais dire j'aimerais prendre tel joueur et il faut le faire. Mais c'est pas mon métier. Je pense qu'il y a des gens qui sont spécialisés pour ça. C'est celui d'Olivier. Et donc, c'est pour ça qu'on a pris aussi, et j'ai fait le choix d'Olivier Piqueux. C'est un président qui est capable de prendre des décisions sportives, de me dire Alexis Beka-Beka, il a telle valeur, et de me le prouver, et de me dire il faut prendre un entraîneur sur le long terme, Stéphane Moulin, ça va prendre du temps, mais faites-moi confiance. À partir du moment où on a cette confiance, moi, je regarde tous les matchs de foot, j'adore ça, mais je pense qu'il faut savoir rester à sa place et savoir pourquoi on est le meilleur. Et donc, malheureusement...
Excuse-moi de te le dire, mais c'est pas tout le temps le cas.
Non, mais c'est...
C'est relativement grisant, je te dis ça, parce qu'il y a beaucoup de présidents, tito qui sont en fonction, et qui commencent à toucher du doigt le foot, les caméras, la notoriété... C'est ultra grisant. Et donc, ils donnent leur avis sur tout, même s'ils ne sont pas experts.
Mais je pense que tu touches à quelque chose d'important. C'est cette question égotique. Et, nous, on est à Paris. On a la chance d'avoir accès aux caméras, aux radios, à la presse. Et moi, j'ai la chance, que de par mon métier, d'avoir eu un peu de quelques papiers. Donc, je ne cours pas après la communication. Et en plus, je la fabrique. Quand vous êtes en province, et je l'ai vécu avec Caen, le football est l'un des moyens les plus rapides pour accéder à la notoriété.
Ouais, se faire connaître, médiatiser.
Exactement, avoir des papiers dans Ouest-France, faire parler de vous. Et tout d'un coup, ça peut griser, mais le boomerang, il est très rapide. C'est-à-dire que si derrière, vous n'avez pas les résultats, vous pouvez vous prendre aussi quelques très mauvais papiers qui sont durs à recevoir. Ouais. Nous, on connaît ça, donc... Moi, en tout cas, j'ai eu accès à cette communication. C'est pas ce que je cherche à travers le Stade Malherbe de Caen. C'est pas à faire parler de moi. Au contraire, j'essaie plutôt d'être en retrait. Et aujourd'hui, je prouve le contraire, pardon, mais c'est pas là-dessus. C'est vraiment une passion. J'ai récupéré ce club avec Octry à un moment où il allait au dépôt de bilan. J'ai investi de l'argent à titre personnel.
D'ailleurs, excuse-moi, c'est parce que le Stade Malherbe de Caen était dans une telle situation que tu t'es dit j'y vais ?
J'y vais maintenant.
Ah oui, alors en fait j'ai essayé il y a 5 ans,
Jean-François Fortin
m'a fait rentrer comme actionnaire, parce qu'il avait besoin d'aide financière, et puis à un moment où il était en difficulté, m'a demandé de trouver un investisseur plus important pour prendre le club, ce que j'avais trouvé, et puis une dizaine d'actionnaires de l'époque n'ont pas voulu, ont pris possession du club, ont pu commettre des erreurs, le club est descendu en Ligue 2, il a gardé des charges de Ligue 1, il perdait 13 millions d'euros par an, ce qui était énorme. Puis le Covid est arrivé. Et à ce moment-là, il y a une réunion d'actionnaires. Tout le monde s'est rendu compte de la situation. Moi, j'étais à Trouville, dans ma maison. Je gérais un nouvel actionnaire au sein de Media One, qui était un fonds américain KKR. Donc, je vivais une transition très forte. Et en même temps, je voyais le Stade Malherbe de Caen aller dans le mur. J'avais du temps. Et je me suis dit, si je ne le fais pas, ce club va se retrouver dans la merde. Et je pensais à moi, petit... qu'aller vivre des émotions au club. Mon oncle a joué là-bas. Mmh. Et je me suis dit, putain, si tu le fais pas, t'es pas un type bien. Donc je me suis retroussé les manches. Avec Guillaume Cuperfis, qui est un avocat ami, on est allé faire le tour de quelques investisseurs. J'en ai rencontré pas mal, dont certains sont aujourd'hui dans le foot. Et je trouve de manière assez grotesque, mais qui sont déjà là vraiment que pour faire de l'argent. Et puis on a eu la chance de rencontrer Octry, ça a fité tout de suite. Et on a récupéré ce club, mais...
Comment tu parles, au fond, justement, pour convaincre ? Quand tu leur dis que... Quand ils voient les chiffres, 13 millions par an, comment tu arrives à les convaincre ?
Ils aiment bien les situations difficiles aussi.
Bah, ils peuvent faire que mieux.
Exactement. Non, mais c'est vrai. C'est ce que vous racontiez dans votre émission dédiée au fonds d'investissement. Ils viennent dans des situations spéciales. Si tout va bien, il n'y a pas beaucoup d'intérêt. Ils viennent plutôt dans des situations difficiles où vous pensez que vous pouvez faire de l'upside, c'est-à-dire créer de la valeur pour le club. Et là, un club avec... qui est dans le top 5 des centres de formation en France, avec beaucoup de joueurs du centre de formation qui sont très bons, en difficulté, en Ligue 2, vous vous dites, vous pouvez sans doute faire mieux.
Il y a plus de chances de faire mieux que pire.
Et puis avec un marché aussi, c'est-à-dire qu'avec une aglo, avec des clients potentiels, quelque chose qui regarde beaucoup aussi.
Exactement. Et puis Octree regarde d'autres choses dans le football et ils ont envie aussi d'apprendre. Donc ça tombait bien pour Octree, ça tombait bien pour le Stade Malherbe de Caen et ça a bien fité entre tout le monde. Donc moi, j'étais ravi de pouvoir faire ça. Mon rêve un jour serait de pouvoir m'installer à Caen et de faire que ça. Et je n'ai pas le temps de le faire et j'ai d'autres activités. Mais je pense que comme tout gosse qui aime le foot et qui est passionné par ça, avoir la chance un jour de pouvoir prendre la présidence du conseil de surveillance, être actionnaire de son club, c'est une chance unique. Donc je l'ai fait. J'aurais adoré pouvoir être au quotidien, tout faire. Mais je pense que d'abord, je n'ai pas le temps et je n'en suis pas capable. Et donc, on a plutôt réparti en prenant un président, dont c'est le métier, qui fait ça très bien.
Ça m'interpelle beaucoup ce que tu dis parce que je reviens sur mon analogie entre le monde des affaires et du football. Ça, est-ce que c'est du coup directement quelque chose qui vient du monde des affaires? C'est-à-dire que tu gères une société, tu mets en place des gens en qui tu fais confiance, qui ont des skills qui sont liés au métier pour lesquels tu les recrutes. L'idée, c'est de faire pareil avec le club de foot. C'est-à-dire
exactement.
Que je mets des gens, j'essaie de me départir du côté grisant dont on parlait, du côté émotionnel, et je mets des gens qui sont capables de bien faire leur métier.
Bah, par exemple, maintenant, on utilise de plus en plus des cabinets de recrutement pour aller chercher... des responsables, des directeurs commerciaux, des directeurs marketing, directeurs com, pour des clubs de foot, ce qui était inenvisageable il y a quelques années.
Ouais, carrément.
Tout c'est, ouais, c'est-à-dire que...
Waouh, avant ça fonctionnait bouche à oreille.
Ouais, c'est j'ai tel pote qui cherche un boulot.
Ouais, c'est ça.
Mais
ils sont vraiment bons? Ils sont vraiment meilleurs?
Les cabinets de recrutement?
Ouais, les personnes que les cabinets de recrutement chassent.
Bah, en tout cas, elles ont une expérience qui peut être utile et elles cochent toutes les cases au moment où tu en as besoin.
Et ça rassure vraiment les présidents?
Ça rassure les fonds d'investissement, ça c'est certain, et ça peut te faire gagner du temps aussi pour certains profils. Après, le foot a ça de magique, c'est que il y a un peu la surprise de ce qui peut se passer sur le terrain. C'est quand même le seul endroit, et c'est assez marrant, c'est Vincent Labrune qui m'avait dit ça, mais dans ton entreprise, tu peux tout contrôler. C'est-à-dire que là, on produit, c'est dans l'air, c'est devant moi, il y a quelqu'un qui a l'oreillette, on peut suivre ce qui se passe, et voilà. Le foot, t'as beau faire en sorte que tout se passe bien, sur le terrain, ça t'échappe. Ouais. Et pour un chef d'entreprise, savoir ce côté où tu peux pas gérer et ça t'échappe, c'est un côté pour certains très excitant, mais c'est vrai, hein, et ils vont beaucoup chercher ça en se disant, pour une fois, il y a un truc que je maîtrise pas. Et même quand t'as beaucoup d'argent, beaucoup de pouvoir, une entreprise avec plein de trucs, le fait qu'à un moment, tu vois, ils remettent tout et puis ils peuvent pas décider... C'est horrible parce qu'ils jouent pas.
Mais ce qui est impressionnant, c'est que même des gens structurés dont le métier c'est de faire des affaires, donc qui ont l'habitude de prendre des décisions basées sur de la data, de l'analyse, ils peuvent se laisser complètement emporter. Je vais recycler un exemple que j'avais pris dans le premier épisode d'Alternative Football. C'est donc on va parler d'entertainment plus tard, donc je sais pas si ça te parlera, mais c'est Sunderland Till I Die.
Ouais.
Et Stuart Donald, qui est le nouveau propriétaire, qui est un mec qui est dans les assurances, donc qui en plus qui est pas dans un métier à la base, qui est extrêmement fun. Et Dieu sait que eux regardent les chiffres en prenant des décisions. Il est en deadline day. Et il pète un plomb sur un investissement sur Will Grigg, dont le principal fait...
Il
au-delà
de 1 million de livres et puis...
Ouais, non, mais tu vois, je crois que c'est son DAF ou son conseiller à côté, mais le mec est blanc, quoi, parce qu'il dit non, on n'y va pas. Et le mec, deadline day, il a la BBC en fond, il a tout le décorum qui fait qu'il a vachement de pression, et tout chef d'entreprise qu'il est, il craque, et l'histoire montrera que c'est un mauvais investissement.
Mais t'en as plein comme ça dans les fonds d'investissement qui pètent les plombs à un moment parce que le foot les rend hystériques. Ouais. Et ce qu'ils ne font pas dans leur propre business, de temps en temps dans le foot, ils lâchent tout. Ça, c'est vrai que ça rend un peu fou. Il y a deux choses qui sont amusantes à constater. C'est que le monde des médias et celui du foot, il est en train de se rapprocher dans les patrons qu'il incarne. Joseph Oucourlian, qui est le patron d'un des plus gros fonds en bord capital, que je connaissais uniquement par les médias, il est propriétaire de Lens. Et c'est quelqu'un d'extrêmement rigoureux, sérieux, d'une efficacité redoutable. Et
mais très discret quand même. Il laisse quand même de la
place.
Oui,
il est discret. Non, mais alors, il laisse tout le monde travailler, il reste à sa place. Mais c'est vrai qu'il vient chercher dans le foot aussi des émotions particulières et de l'adrénaline, alors que c'est quelqu'un d'hyper compétent dans tout. Et vous vous dites, c'est marrant, ça ne lui ressemble pas. Mais il vient chercher ça aussi. C'est arrivé un peu par hasard, il fait un travail exceptionnel. Mais de temps en temps, le foot, ça se joue... Tu vois, c'est la pièce en l'air. Lens et Caen étaient en Ligue 2 il y a 2 ans. sur un, ça s'est arrêté à cause du Covid, là on s'est monté, pas quand, quoi. Il y a plein d'exemples qui font que.
Non, on sent bien le supporter. Qui
non, mais la vie, ça se joue à pas grand chose. Tu mets un très grand patron d'entreprise à la tête d'un club demain, il va dans le mur. Parce que c'est des choses qui sont à part, parce que...
Il faut parler le langage.
Exactement. C'est le truc qu'on... Il y a des clés, il y a des codes. Un grand patron, il voudra aller parler avec les joueurs, tous les joueurs, et faire pote avec eux, ce qui est la dernière chose à faire. Il voudra être copain avec l'entraîneur, lui expliquer comment il faut jouer. Dernière chose à faire. Il voudra être apprécié des supporters, qu'on dise du bien de lui dans la presse.
Il n'a plus la froideur qui fait de lui un grand patron d'entreprise.
Non, c'est terminé. C'est terminé. Et il faut avoir la juste distance et le bon regard. Mais moi, j'adorerais aller dans le vestiaire, là, en ce moment, à Caen, pour leur dire « Putain, mais vous pouvez pas jouer comme ça, c'est pas possible, c'est horrible. » Mais ce n'est pas mon rôle, ce n'est pas ma compétence.
Tu ronges ton frein.
Je range mon frein, et puis on paye un garçon qui s'appelle Olivier Piqueux, dont c'est le métier. Mais si je fais ça, je sors de mon cadre. Donc, il faut que chacun soit à sa place. Mais pourtant, je l'ai fait une fois l'an dernier, au dernier match, avant Clermont-Ferrand, dernière journée de Ligue 2. On est potentiellement relégable en national et si on perd le match, on tombe en national. On gagne ce match dans les arrêts de jeu sur un penalty après avoir été mené. Mais ce jour-là, j'ai essayé la veille de parler avec les joueurs, de leur montrer des images pour leur montrer qu'on pouvait renverser des situations et essayer de jouer sur un ressort psychologique. Mais c'est pas mon rôle de le faire et il faut pas le faire. Et ces grands patrons ont tendance à penser qu'ils peuvent avoir le même impact sur l'économie que sur le foot, ce n'est pas le cas. De mon point de vue, ce n'est pas le cas.
En plus, c'est surtout un aveugle, ils n'ont plus confiance en leur équipe opérationnelle.
Exactement.
C'est terrible.
Et c'est ça les pièges à éviter dont tu parlais. C'est-à-dire, tu parlais des pièges à éviter, c'est considérer la spécificité de la matière foot et du fait que tu as un langage qui ne peut être quasiment compris que par les gens du cercle du foot et qui viennent de ce monde-là et ne pas se laisser embarquer par le côté émotionnel. Et pourtant, tu viens quand même d'un monde où l'émotion, c'est clé.
Bien sûr.
Que tu vends de l'émotion.
Ouais.
La notion de storytelling, qui est quelque chose qu'on banalise beaucoup, mais qui est très présente dans la manière dont les Américains travaillent leur sport, il y a un lien qui est naturel avec le foot, il y a un lien qui est naturel avec le sport, et plus ça va, plus on en fait. La F1 l'a très bien fait en relançant l'intérêt commercial pour la F1 et l'intérêt de l'audience. Quand tu accèdes à ces responsabilités à Caen, est-ce que tout de suite dans ton esprit, il y a une volonté de lier les deux métiers et de dire. Ce que je sais faire en entertainment et en storytelling, je vais pouvoir l'apporter au Stade Malherbe de Caen et ça va le faire progresser.
Alors la première chose qu'on m'a proposée, c'est de faire un documentaire sur l'histoire du Stade Malherbe de Caen et je me suis dit non, parce que j'avais vu Sunderland. Deuxièmement, je savais qu'on n'allait pas vivre une histoire linéaire et j'avais pas envie de m'en prendre plein la gueule parce que je sais que l'histoire dans laquelle je suis rentré, elle va être compliquée pendant 2-3 ans. On va pas se mentir, on retourne pas un club d'une situation si difficile en un an, c'est impossible.
Mais c'est bien d'être patient et de le communiquer surtout.
Parce que les
supporters, ils supportent pas qu'on leur mente quoi. Ils sont prêts à entendre.
Ouais, alors ils supportent pas qu'on leur mente et en même temps ils veulent qu'on y arrive, mais ils ont raison. Mais malheureusement, on n'y arrivera pas tout de suite. On perd des 15 millions d'euros par an, donc on est passé par un plan social qui est un truc extrêmement compliqué dans le foot. Et moi, mon industrie, effectivement, c'est celle du divertissement, de faire des belles histoires, d'essayer de faire rêver les spectateurs et de faire en sorte qu'ils soient contents dans le foot. Et j'aimerais bien qu'on arrive à ça. Mais pour l'instant, c'est pas possible parce que le club part de trop loin. Après, j'ai essayé de mélanger mes deux métiers. Les joueurs de Caen, avant un match contre le PFC il y a un an, sont venus voir Bakhtar en avant-première ici. Et ils étaient tous très contents de pouvoir le faire. Aurel San, dont j'ai produit le documentaire, est venu à Caen pour présenter son album. Alors, il y est lié au club, mais c'est deux univers qui vont se mélanger de plus en plus. Et j'ai essayé de faire en sorte que nos activités audiovisuelles puissent se rapprocher du Stade Malherbe de Caen. Alors, quand le bus de Caen s'est garé devant le site de Media One, avenue de Breteuil, et les joueurs sont sortis tous en survêt du Stade Malherbe, c'est deux univers, tu vois, un peu opposés, mais c'est ce que j'aime bien, moi. C'est ces univers-là qui se mélangent et ça a créé des belles rencontres. Donc,
et le dress code du survêt, c'était obligé ou ils auraient pu venir?
Non, mais ils étaient en préparation parce qu'ils jouaient contre le PFC.
Ça va.
Mais moi, je trouve ça génial. Quoi. Tu vois, j'ai des maillots du Stade Malherbe de Caen ici. Voilà, je suis fier de ça et je pense que, comme tous les patrons qui dirigent des clubs, ça fait partie de notre cœur.
On revient sur la notion qu'on avait un peu évoquée avec Antoine Gobin sur trouver le bon équilibre. Ouais. C'est-à-dire que, alors pour l'avoir vécu à une échelle complètement différente, parce qu'on a nous aussi été rachetés par un fonds américain il y a quelques années, c'est trouver l'équilibre entre leur culture hyper pragmatique, qui effectivement, on prend des boîtes soit dans une bonne situation et on va faire notre travail de VC, on va réduire les coûts de production, on va réduire les effectifs pour maximiser la marge et revendre sur un short terme, soit aller dans des propriétés qui sont un petit peu difficiles, c'est essayer de leur apprendre l'équilibre. C'est-à-dire que oui, vos méthodes fonctionnent très bien pour un certain nombre de choses, mais tu as un poids culturel quand tu vas dans d'autres pays qui est important, et a fortiori quand tu rentres dans le sport. À quel point tu es audible, à quel point c'est audible? Ça, quand tu vas voir en recrutement, tu leur dis, écoutez les gars, on vient vous chercher parce qu'il y a de la liquidité chez vous, on en a besoin, maintenant, c'est comme ça qu'on fait les choses dans un club de foot en France.
Bah, ils l'entendent, mais ils savent que c'est sur le long terme. C'est-à-dire, ils savent qu'il y aura, s'il y a un retournement, il existera au bout de 3-4 ans. Mmh. Donc il faut qu'ils aient confiance dans le projet, dans les hommes choisis, ouais. En l'occurrence Olivier Piqueux. Moi,
C'est le fonds qui a choisi Olivier ou c'est toi?
Non, c'est moi qui ai proposé, voilà. Olivier.
D'accord, voilà, c'est ça. C'est toi qui as mis en place l'équipe de...
Ouais, mais on a un très bon fonctionnement, c'est-à-dire qu'on se parle... Good. Le pire dans le foot, c'est l'ego. Hein. Donc là, on essaie
dans
de...
Dans la vie, en règle générale, on va dire.
Ouais, mais dans le foot...
Dans le foot, on voit, c'est un reflet.
On a envie de voir si c'est philosophe ce soir. Ouais.
Je suis tout le temps, mais voilà. C'est vrai. Tu vois, mais tu le remarques pas.
Ouais. Non, mais cet accélérateur de notoriété, il marche pour tout l'écosystème du foot. Donc, faut que chacun apprenne à rester à sa place, c'est le plus important. J'ai raté ta question, pardon.
Non, je veux dire, à quel point c'est audible pour ces gens-là? Parce que pour le pratiquer un petit peu, c'est...
Moi, dans la vie, j'ai un principe, il faut être franc. C'est-à-dire que si tu dis les choses au début... En l'occurrence, cette expérience-là, elle est assez amusante, puisque j'ai rencontré d'autres fonds, d'autres qui ont investi dans le football français depuis, avec des gens qui étaient dans un truc qui ne correspondait pas à ce que je souhaitais. Et ils disent à un joueur de foot, un salaire de... C'est payé de 9h à 19h. Donc, il y a 3 heures dans lesquelles ils ne travaillent pas. Mmh. Ben, ces 3 heures-là, il faut qu'on les mette à profit avec... passe des coups de fil aux supporters pour leur demander de s'abonner. Mmh, ils nettoient le club et tout. Ça existe. Hein. En l'occurrence, il y a une personne qui fait ça, qui a investi depuis dans le foot français. Mais c'est d'autres méthodes, d'autres philosophies. Octri, ils ont compris la problématique. Ils sont présents. Ils laissent faire. Bien sûr qu'ils encadrent et c'est leur travail. Mais il ne faut pas mentir. Parce que si tu dis à quelqu'un qui va investir dans le foot pour gagner de l'argent... là, maintenant, tout de suite, c'est mentir. Ouais. Alors, c'est impossible.
Une question qui fait un rebond sur ce que tu viens de dire. Comment tes associés chez MediaOne
ont
jugé, peut-être qu'ils n'ont pas jugé, cet investissement dans le foot? Ils t'ont regardé, ils ont dit non, mais t'es sérieux?
Bah, tout le monde se fout de ma gueule. Bah, d'abord, Xavier, il a un de ses très bons camarades, qui est Rani Assaf, qui est le propriétaire de Nîmes, qui est dans une situation... par exemple, c'est un génie. Et à Nîmes, il est parti dans un truc très compliqué.
Il a dit, le centre de formation me coûte 1,5 million. Ouais. C'est quand la dernière fois qu'on a sorti un mec?
La barrière est encore une fois culturelle. Et qu'est-ce qui est acceptable pour l'audience française d'accepter quand elle a connu son foot? C'est-à-dire que ce modèle-là, où les clubs professionnels ne prennent pas le risque, parce que c'est un risque, hein, le taux de transformation sur de la formation, il est infime par rapport à ce qui est acceptable en termes d'investissement. Ça, c'est le modèle américain. C'est de dire, ce n'est pas la responsabilité des clubs professionnels de former des joueurs. Mmh. Ça, c'est lié au cursus scolaire et éducatif. Les universités gagnent de l'argent, elles peuvent l'investir dans la formation et ça leur retombe parce que derrière, je suis fier d'avoir formé tel joueur qui est devenu... donc, le modèle économique et la réflexion économique, elle est saine. La barrière, elle est culturelle. Elle est d'en dire, ok, sauf que le football, historiquement, c'est homegrown, comme disent les Anglais. J'ai mon joueur qui est passé par tous les échelons de mon centre de formation, qui finit capitaine du club, et c'est la belle histoire, parce que en plus, t'as une notion territoriale, on en parlera après, bien très sûr. Forte dans les clubs européens. Mais je suis entièrement d'accord avec vous. Le fond de la réflexion, il est plutôt sain, il est de se dire, moi, j'ai un club à faire tourner, j'ai un club à sauver, j'ai des emplois à protéger, comment je fais en sorte que ce soit possible?
Ouais. Ah oui, c'est clair. Sur Xavier Niel et Mathieu Pigas, juste pour vous répondre dessus. Moi, d'abord, ils sont beaucoup moqués de moi parce que, encore une fois, le Stade Malherbe de Caen, c'est pas d'une notoriété, c'est pas le Paris Saint-Germain, ni l'Olympique de Marseille. Donc déjà, quand vous prenez un club régional, c'est la perception à Paris, elle est différente.
Déjà, quand tu parles de foot, non?
Ouais, mais ça a toujours été ma passion, okay, donc ça, ils l'ont vite compris. Et ensuite, quand tu prends un club de Ligue 2 à Caen, autant te dire que faut que, avoir le cuir épais, parce que les gens se foutent de toi, mais ça, c'est pas très grave. Et je les ai convertis. Mathieu, il est venu voir un match à Caen, je crois même deux. Et c'était non, mais résultat, c'est très sympa. Il est normand. C'était PSG en Coupe de France.
Donc défaite.
Défaite et ensuite un premier match de saison qu'on avait gagné.
Ah, donc mais, c'est pas le chat noir.
Mais
donc
sympa. Et il l'a fait de bon cœur. Il a trouvé l'expérience assez géniale parce que ce club est génial et tout est génial quand on va là-bas. Et Xavier, maintenant, il est curieux. Il commence à suivre. Je suis pas certain que quelqu'un arrive à le faire investir un jour dans le foot. Dans le foot. Parce que c'est trop irrationnel pour lui. Ouais. Mais c'est marrant parce que lui, voilà, c'est pour moi l'un des plus grands ou le plus grand patron français. Mmh. C'est un génie qui connaît toutes les industries par cœur, qui rentre dans les modèles, qui a toujours le bon regard par rapport aux autres. Et le foot, c'est pas un truc qui
il arrive à appréhender. Et donc, ouais, c'est pour ça, comme il sait pas l'appréhender, comme on peut pas l'appréhender ce milieu.
Exactement. Il reste à distance. Alors que, quoi, pour lui, ça serait assez facile de devenir propriétaire d'un club, d'investir de l'argent et tout.
Alternative Football.
Je reviens rapidement sur Oaktree et ta relation avec eux. Il y a quelque chose qui m'a frappé quand on prépare un peu l'épisode. J'ai fait quelques recherches. Si je ne m'abuse, tu as négocié avec eux une clause dans l'accord qui est que s'ils décident de désengager, tu as la priorité.
En premier regard, ouais.
D'accord. Mmh. Je me trompe peut-être, hein, mais ce n'est pas quelque chose qui se fait souvent. Et c'est un témoignage de ton attachement au club seulement et la passion, ou il y a aussi derrière pour toi un calcul plus business, en disant ça peut m'intéresser à un moment de reprendre la totalité.
Écoute, pour être très franc, là on l'a fait en urgence parce que le club était au plus mal et allait au dépôt de bilan. Donc il aurait pu redémarrer en, je sais même pas, CFA ou
plus. Le dépôt de bilan, c'est très bas.
Ouais, c'est donc amateur.
Ouais, c'est vrai.
Et donc, National 2. On a fait ça en urgence. Oaktree, évidemment, en tant qu'investisseur, eux, ils ont la majorité, le contrôle, et dans l'absolu, ils font ce qu'ils veulent. Ouais. L'intelligence qu'ils ont eue, c'est de comprendre que dans l'écosystème local, je pouvais être important. Et moi, je leur ai dit, je veux bien investir. J'ai mis de l'argent, hein, plusieurs millions d'euros, ce qui est, à mon échelle, beaucoup d'argent. Mmh. Et
je te rassure, à l'échelle de beaucoup de personnes.
Non, ouais, non mais parce qu'on parle des grands chefs d'entreprise. Ah, oui. À l'échelle d'un fonds américain, c'est rien.
Oui, mais
à l'échelle, moi, ouais. C'est pas neutre. Quoi.
J'ai bien sûr. C'est un vrai investissement.
Exactement.
Personnel. Est-ce que c'est un investissement, on en parle à sa femme ou pas du tout?
Si, je lui ai dit, mais je lui ai pas dit combien. T'es exactement. J'espère qu'elle vous écoutera pas. Ça fait partie. Non, ce que je fais de pire à ma femme, c'est qu'on part en week-end en Corse et elle est très contente. Et je lui ai dit, ah merde, il y a
Ajaccio.
Je lui ai fait 4-5 fois l'an dernier. Elle a compris à Clermont-Ferrand, c'est terminé. Mais en l'occurrence, moi, je leur ai juste dit un truc, c'est que je veux bien utiliser mon image, mettre mes réseaux à disposition, mais si demain ils décident de partir, est-ce que le principe d'un fonds est de vendre? Je veux juste être en capacité de pouvoir le racheter moi si c'est dans mes moyens, parce que je suis pas là pour faire un coup financier, je m'en fous, je veux jamais gagner un euro avec ce club, et tant mieux si Oaktree gagne parce qu'ils ont été courageux et ils ont été là à un moment important. Moi, je veux juste être là le plus longtemps possible et faire en sorte de protéger ce club. Donc, avoir un rôle. Si demain, il n'y a plus personne et qu'il faut mettre plus d'argent, je le ferai. Mais par contre, je ne veux pas demain être sorti du club, être vendu à un fonds chinois et perdre toute identité de ce club. Ce n'est pas l'engagement que j'ai pris auprès des actionnaires historiques et puis auprès de l'écosystème de ce club. Je pense qu'on a une responsabilité morale de faire en sorte que ça garde un ancrage local très fort. Et tu mettrais un fonds d'Américain tout seul dans un écosystème comme ça, et on l'a vu un peu avec Bordeaux, c'est pas la meilleure
ils
solution.
Le
donc ils ont été très intelligents là-dessus, Oaktree.
Et le fait que tu sois du coin, on le sent quand tu en parles, c'est important pour toi. Est-ce que tu sens dans l'écosystème du club, et je parle autant des employés que des supporters que tu peux être amené de croiser, ça résonne, ça, comme c'est important
pour eux? Bien sûr, c'est très important. D'abord, encore une fois, mon oncle a joué là-bas, en équipe première du Stade Malherbe de Caen. Moi, j'allais voir tous les matchs gamins. J'ai voulu rentrer au centre de formation, mais j'étais trop nul. Que des frustrations à la vie. Hein.
Bah ça, c'est bien. Mais tu l'avoues?
Bah oui.
Il y en a beaucoup qui disent « Ah, j'étais bon. Hein. »
Mais je me suis fait les croiser.
C'est beau, franchement.
Non, mais moi, j'aurais adoré. C'est quand même... voilà, mais j'avais pas le niveau. Donc, de pouvoir revenir aujourd'hui dans un truc particulier, j'ai envie de vivre ça le plus longtemps et de faire en sorte que les gamins du coin, ils puissent aller voir un match de camp comme un divertissement le samedi soir et profiter et vibrer grâce à ça. Parce que moi, c'était mon cas. Quand j'étais petit, je vais pas me plaindre, mais j'avais pas beaucoup d'activités. Et le foot était l'un des seuls trucs qui me faisait vibrer. Et donc, j'attendais ce moment avec impatience. Je sortais avec mon père, mon frère. On faisait voilà, les 50 bornes entre Trouville-les-Camps. On se garait, on faisait une heure pour aller à pied. C'est des trucs dans la vie. Il y a des expériences comme ça que tu gardes tout le temps. Mmh. Mon père est décédé il y a 2 ans. Un souvenir fort que je garde avec lui, c'est la finale de l'Euro 2000, où on est allé ensemble à Rotterdam voir la finale. Ouais. On s'est fait caillasser en sortant par des Italiens. Et malgré tout, le foot, c'est un truc qui, dans toute ta vie, te marque fort. Et j'avais envie que voilà, les jeunes de la région, en Normandie, puissent vivre des moments comme ça. Alors pour l'instant, ce n'est pas réussi, parce qu'on ne produit pas un spectacle de bon niveau. Mais j'espère qu'on va arriver à remettre ça en place. Donc ce club, je l'ai au fond de moi. Et je l'aurai toute ma vie. Et si demain, il y a un autre projet avec beaucoup d'argent et un ancrage local, tant mieux, je m'effacerai.
D'accord. Il
va falloir trouver quelqu'un d'Honfleur.
D'où?
Parce que trouver, c'est déjà pas mal.
C'est un footballeur, par exemple. Ouais. Mais pour continuer sur cet ancrage local dont on a un petit peu parlé tout à l'heure, et on en a plusieurs fois parlé sur le podcast, hein, qui, selon nous, est en dehors des 1% de clubs qui sont des clubs internationaux et qui ont d'autres ambitions et d'autres leviers, c'est absolument clé pour les clubs français de réussir cet ancrage local, et ça passe par d'autres choses, notamment les relations avec les autres phares des villes. Je fais forcément référence à Orelsan. La relation que Caen a avec lui, que toi tu as avec lui, est-ce que c'est quelque chose de spontané parce qu'il est du coin, il aime le Stade Malherbe, il en parle depuis toujours dans ses chansons, ou est-ce que c'est quelque chose que, encore une fois, parce que tu viens de ces métiers-là, tu t'es dit, il y a un terrain, il faut le travailler. La raison pour laquelle je te pose la question, c'est que la réponse de Fabien Allègre, quand on lui a parlé de DJ Snake sur un précédent podcast, m'a un peu surpris, parce que lui aussi vient du milieu plus de la musique, et disait non, avec DJ Snake, on ne le travaille pas particulièrement, c'est super, c'est une star internationale, il est supporter du club, on laisse le truc un petit peu vivre. Quelle est, toi, la relation que tu as
avec Orelsan? Je l'ai rencontré au club, la première fois, dans un match où il venait par plaisir venir. Donc il y a ce truc de naturel et spontanéité. Il s'avère que cette relation a donné lieu à une réunion où il m'a présenté les images que tournait son frère, et on s'est dit on va faire un documentaire ensemble. Donc c'est né, et ensuite il y a cette relation à Caen. Moi je voudrais l'embarquer avec nous d'une façon ou d'une autre. Tu sais, j'ai lisé un article sur Toulouse, et pardon, je vais faire une digression, mais non. Toulouse racontait, qui est extrêmement basé sur la data, hein, le club de Toulouse, et ils font des recrutements hyper forts.
Damien, comme il a toujours été, de tout temps, ça a été un de nos premiers clients à l'époque à Liverpool.
Super bon, ils ont utilisé la data au maximum. Ils ont considéré qu'il fallait mettre un ancrage musical, ils sont allés chercher Big Flo et Oli. Mm-hmm. Mais malgré tout, il y a un côté un peu moins spontané, parce que tout est écrit. Nous, on est un peu plus amateurs, mais en même temps, tout vient du cœur. Et un garçon comme Orelsan, on ne va pas le chercher parce qu'on est obligé de le faire, mais parce qu'il y a une volonté des deux côtés et il y a un amour des deux côtés pour ce club. Donc, on va l'ancrer beaucoup plus. Il va prendre de plus en plus de place au sein de l'écosystème. Et franchement, il est Orelsan, disque d'or ou disque de platine en une semaine. Sa première sortie médiatique, elle est au milieu de Michel Dornano, qui est en crise avec des supporters qui font grève.
Le mec, il est là, il vient, et
on va le faire de plus en plus, mais dans un truc... Pas parce qu'il faut le faire, pas parce que c'est à la mode, pas parce que les Américains le font dans les stades depuis longtemps ou en Angleterre, mais parce qu'on aime vraiment ça. Et ce côté-là, c'est celui sur lequel on va se reconstruire.
Ouais. Et non, mais en plus, je trouve ce qui sert l'histoire, ça ne fonctionne que si c'est spontané. D'autant plus qu'Orelsan est quelqu'un de très spontané, on le voit dans le documentaire.
Je ne sais pas si ça fonctionne quand c'est spontané. Parce que y a beaucoup de clubs qui. Tout est scripté et ça fonctionne. Mais c'est quand même bien.
Tu penses à qui?
Ouais, voilà. Des noms, monsieur Cissé.
Ouais, ton club, par exemple.
Si on écoute la personne qu'on a reçue de mon club, c'est pas scripté. Après, c'est plus
quand
ou
je
moins,
regarde
c'est plus
du
ou
côté...
moins heureux, mais.
Ouais, c'est clair, c'est scripté. Voilà, c'est tout.
Et il
non, mais ils n'ont pas changé. Vous avez changé le logo de.
Non.
Non, ben voilà. Bon, déjà, c'est pas scripté.
Ils font tous
la même chose.
On est dans la vie personnelle, mais je sais pas ce que tu en penses, et d'ailleurs, peut-être que tu pourras pas nous le dire, mais je pense que tu as pas eu besoin de changer le logo, parce que je trouve que la refonte du logo qui a été faite avant que vous arriviez est très réussie. Encore une fois, on est sur des valeurs locales avec le Viking, les couleurs du club sont répétées, c'est moderne, parce qu'on est c'est un logo qui reste très simple. Donc peut-être qu'on t'avait ôté une épine du pied avant, parce que ça avait déjà été fait.
Liste des choses, par exemple, qui sont amenées par les fonds américains, à chaque fois, et
toujours,
il a raison.
Identité visuelle.
T'as le logo. Ouais. On change le logo.
Bah tu vois, Mathieu.
Et ça fait partie des... Bah oui. Mais ça, je le vois aussi dans mon business. Ouais. T'as la marque, le logo. Oh, ouais. Ça fait partie de tous les sujets. Ouais. Tu fais tous les trucs. Évidemment, ça fait partie des sujets.
Ça me rappelle un club du Sud-Ouest. Pierre Blaillot, quand il reprend le Paris Saint-Germain, grand chef d'entreprise, enfin grand patron,
ouais.
Il arrive et il nous dit en off... Vous savez, les gars, c'est pas évident. Hein. Je suis habitué à parler devant des centaines de salariés, aucun souci. Mais face à moi, j'ai 20 mecs et ça m'est très difficile. Puis c'est difficile qu'ils le disent. Ouais. Tu vois, pour lui, tu vois, c'est une grande personnalité de communiquer avec vous, de parler. C'est pas évident. Est-ce que toi, tu peux ressentir ça ou pas du tout?
Moi, j'ai vécu des moments humiliants dans ma vie de chef d'entreprise. Quand on a lancé MediaOne, je parlais pas un mot d'anglais. Et je connaissais rien à l'économie.
Ouais.
Et on est parti en roadshow, c'est donc des levées de fonds auprès d'investisseurs, à New York et à Londres avec Xavier Niel et Mathieu Pigas. Et je leur ai dit, pour l'anglais, je veux bien faire en one-to-one et essayer de m'exprimer, mais vous m'aidez, mais par contre, pas en collectif. Et on arrive à Londres, on fait des rendez-vous le matin, tu t'es transporté, tu sais plus qui tu vois. Et il y a un moment, je vois qu'on arrive dans un hôtel, je pense que c'est pour le déjeuner, ils me disent tous les deux, on arrive, on va pisser, je rentre dans une salle, et là, il y a une centaine d'investisseurs, donc financiers anglais de haut niveau,
tu dois pitcher,
face à moi. J'ai un micro, et j'arrive sur scène. Et là, je sens qu'il faut que j'y aille. Et ça, c'est des moments humiliants où, quand tu survis à ça, te retrouver face à une trentaine de joueurs de foot, c'était pas le plus difficile. Après, c'est est-ce que tu as l'impression d'être écouté, respecté, compris, ou est-ce que les gens n'ont rien à foutre ? Je dois t'avouer que la première fois que je suis arrivé au Stade Malherbe en tant qu'actionnaire et président du conseil de surveillance à parler devant les joueurs, j'ai eu l'impression qu'ils n'en avaient rien à faire. Mmh. C'est-à-dire que c'était moi, un autre et quoi que ce soit.
C'est dans la façon qu'ils te regardent.
Ouais,
c'est pas évident. Hein.
Non, c'est pas facile.
Même le coach, même les coachs, parfois, te disent dans certains vestiaires, quand ils font leur causerie, t'as 20 bonhommes qui te regardent comme ça. Mmh. Et y en a plein qui perdent leurs moyens.
C'est vraiment pas simple.
Et je peux te dire que parfois, même quand tu prends la parole, quand t'es joueur, tu prends la parole quand ça va pas, tu vois le regard de tes coéquipiers. Ouais. Hein. Et tu te dis, mais qu'est-ce que tu dis? Et tu continues.
Non, c'est vrai.
Tu te dis, mais on en a rien à fiche, ce que tu dis. C'est de la merde. Enfin, entre guillemets.
Je pense qu'ils ont besoin de te respecter aussi. Et avec le temps, ils sont venus ici, on a fait des trucs en commun. Ils ont appris à me respecter, à prendre qui j'étais, et à voir que j'étais pas là, ni pour leur dire comment jouer, ni pour leur donner de l'argent. Mais pour faire en sorte que voilà, ce club continue et dans des bonnes conditions. Parce que ce qui est vrai, c'est que, parenthèse aussi, ils ont de la chance aujourd'hui de jouer dans un club de Ligue 2, dans des conditions extrêmement favorables. Et j'aimerais bien que de temps en temps, ils s'y rendent compte.
Pour finir sur le sujet des hommes,
ouais.
Au-delà du joueur, parce qu'on a compris ce que ça impliquait, la différence du management des hommes entre le club de foot et là, donc dans son ensemble, les salariés, qui sont en général des gens du coin, très attachés au club, avec un affect, et le management dans l'entreprise, qui peut potentiellement paraître plus froid, parce que les gens ne font pas forcément toute leur carrière dans l'entreprise. Ça va, ça vient, ils progressent. Est-ce que, on a compris dès le départ que tu appliquais certaines choses ouais. qui étaient similaires dans le choix des skills, c'est bordé, il y a des frontières. D'autres similitudes, des différences notables?
La grosse différence, c'est que il y a un aléa qui change ta semaine et le travail des uns et des autres, c'est le résultat sportif du samedi. Et ça, il faut, et c'est le travail qu'on essaie d'amener aussi avec Vincent, Catherine et Octry, c'est de faire en sorte de voir à long terme et de pas faire en sorte que si tu fais match nul à Auxerre le samedi, ta semaine soit meilleure que si tu prends une tôle contre Amiens.
Contre
Pau. Et donc, le sportif fait que le moral des salariés du club en prend un coup. Nous, notre rôle, c'est de faire en sorte d'avoir une continuité. Et que là, on est dans une période extrêmement compliquée, mais je suis en confiance avec Stéphane Moulin. Je sais qu'il est en train de... Voilà, pour lui, ça a été une grosse différence entre ce qu'il a vécu à Angers et aujourd'hui à Caen. Il faut un temps pour qu'il s'habitue. C'est pas simple, mais je sais que c'est le bon entraîneur On a une confiance absolue en lui.
Même lui, il faut qu'il s'adapte. Il est resté 8-9 saisons à 14 ans à Angers. Ouais. Donc,
grosse longévité de Ligue 1.
Et donc, en fin de compte, même lui doit s'adapter. Il faut qu'il change d'environnement et c'est se remettre en question. Mais
j'ai confiance. Ouais, et donc, il faut laisser le temps. Et tu vois, dans ces cas-là, pas paniquer vis-à-vis de l'écosystème, des supporters, des trucs. Parce que c'est là où tu peux faire n'importe quoi. Changer plein de choses, recruter des joueurs, vouloir changer d'entraîneur. Non, on a un projet, on va le défendre avec lui. La décision importante, elle est du choix de l'entraîneur. Une fois que c'est fait, c'est parti, on avance.
Et le facteur pression, qu'elle soit populaire ou médiatique, dans ce métier-là, est forcément impactante. Comment on la gère ? Dans ton métier d'avant, tu avais aussi un retour du public, parce que tu produis des choses qui sont mises à l'écran, donc forcément tu as un retour. Mais je dirais qu'il est peut-être moins sensible, parce que moins lié, il n'y a pas de résultats sportifs, c'est peut-être un peu plus froid, les retours sont une fois que c'est produit. Là, c'est beaucoup plus direct. À quel point ça t'impacte, et ça
Moi, tu sais, j'ai eu la chance d'avoir les audiences, qui sont un truc tous les matins à 9h02. Quand tu fais un prime un samedi soir jusqu'à minuit, que tu rentres chez toi cassé et sur lequel tu mets du temps à redescendre et qu'à 9h, tu te prends une tôle et que c'est commenté partout dans la presse. Alors, commente moins les audiences qu'avant, mais à une époque, tu avais le Parisien, les machins, les trucs. C'est hyper violent.
Ah, mais c'est comme quand t'es joueur de foot.
C'est un peu comme t'es joueur de foot.
Ah oui, donc t'es habitué.
Et puis t'es attaqué à titre personnel. Quoi, moi, j'ai eu des attaques de plein de gens facialement.
Pas... Ouais. Ok, d'accord, ok.
Donc, tu prends ça de manière un peu plus distante. Après, ce qui est dur, c'est que c'est pour mes preuves. Ma mère, par exemple, qui a 82 ans, qui vit là-bas et qui voit ça, elle le prend très mal. Honnêtement, d'abord, les gens sont plutôt très sympas avec moi, même si les résultats sont difficiles. Et donc, je considère que j'ai de la chance et que cette pression, j'arrive à la mettre à la bonne distance.
Alternative football.
C'était une transition naturelle avec ce que tu disais, c'est-à-dire que tu disais que tu ne dormais pas en fin de saison dernière, et c'est des choses que tu avais donc connues avec les audiences avant.
Alors ça, le foot, par contre, ça a ce truc de... Je fais plein de métiers différents dans ma vie et j'ai plein de raisons de mal dormir. Maintenant, la pression des affaires, j'ai un groupe qui a été coté en bourse, j'étais pas du tout fait pour ça, c'est beaucoup de pression. Tu vois ton cours de bourse monter, descendre... pour des raisons qui t'échappent, donc ça aussi, c'est difficile. J'ai la télé, où quand une audience est moins bonne, c'est difficile. Le cinéma, quand tu fais le film Playmobil, par exemple, qui était une grosse sortie pour nous, on s'est pris un four monumental. On a bossé pendant 2 ans, à midi, tu sais que c'est mort, ton film,
Pourquoi
est mort.
Pourquoi ? Parce qu'il pleuvait ?
Quoi qu'il arrive. Non, parce que les audiences, les résultats étaient
pas
bons.
Non, mais c'est pas des conneries, mais tu peux expliquer à ces pimpins qui rigolent, là, que les mercredis, les sorties, la météo, merci.
Mais tu sais que à 14h, tu sais si ton film... il va marcher à vie ou pas.
Oui, parce que t'as entrées,
Tu te prends des
pâtes. T'as vu les préjugés ?
Bah ouais, c'est fou.
Putain, les mecs.
Mais par contre, j'arrive à dormir malgré ça.
D'accord.
Le foot, c'est un truc, ça te rend dingue, ça te fait mal à la tête et t'as pas de prise. Surtout, tu n'as pas de prise. Et donc, moi, je suis comme les supporters, j'ai envie de gueuler, de dire mais pourquoi ? Mais tu peux pas le faire et surtout, et là, ça te rend dingue. Et là, tu dors plus. Voilà. Et je sais que certains de mes camarades présidents, c'est la même chose.
Ouais.
Ouais, et c'est la première chose qu'on nous dit, le lâcher prise. On ne peut pas maîtriser. Dans le foot, tu ne peux pas maîtriser.
Tu ne peux rien faire.
Tu sais, quand tu commences un match, tu veux gagner. Mais bon, tu as 10 personnes, tu as 10 collègues, tu as un adversaire. Qu'est-ce qui se passe ?
Tu sais, on s'est fait... comment dire ? Je vais essayer de trouver un terme approprié. On a eu un arbitrage défavorable, il n'y a pas longtemps, dans un match contre Dijon, où l'arbitre a refusé un but au stade Malherbe de Caen, qui était rentré.
Ah oui,
il nous a mis un carton
rouge.
Et un ancien
joueur.
Un ancien joueur, exactement. Et
qui a repris son premier match de Ligue 1 ce week-end, d'ailleurs.
D'accord. Ouais. Et donc, c'est horrible. C'est-à-dire que tu le vois à la télé, tout le monde le sait, mais même là, tu ne peux rien faire. Donc,
t'as une forme d'impuissance.
Voilà, t'apprends, il faut que t'apprennes ça, même si tu deviens fou, tu ne peux pas faire autrement.
Non, mais moi, ce qui m'avait frappé, c'est que toi, pour le coup, tu avais beaucoup plus d'emprise sur le résultat final que... un supporter ou un président, et tu m'avais dit lors d'une de nos premières discussions, mais même nous, c'est-à-dire qu'on est 1 sur 11 ou 1 sur 14 et les mecs qui vont rentrer, donc on est acteur, mais dans un sport collectif, t'es acteur dans une certaine mesure. Donc si même la personne qui est sur le terrain a pas...
La seule chose que tu peux maîtriser, c'est ta performance.
C'est ta performance à toi, ouais. Et encore, qui est aussi conditionnée par les mecs à côté.
Ouais, mais après, avec l'expérience, tu peux quand même maîtriser ta performance. C'est la seule truc. Après, le reste, il faut accepter ça.
D'ailleurs, tu le sais mieux que moi, il y a des joueurs qui lâchent, il y a des joueurs qui jouent pas, et toi, tu... Maintenant, la différence par rapport à avant, je me rends compte des joueurs qui n'ont pas envie ou qui sont fragiles psychologiquement. Ouais. Et
Ah, c'est plus ça... parce qu'ils sont fragiles psychologiquement qu'ils lâchent. Ouais. Parce que leur envie, c'est ouais, je suis motivé. Mmh. Mais premier ballon, ça siffle, ouf.
C'est fou, hein.
Ouais. Switch off.
C'est fou.
Dernière question, parce qu'on te sait très, très occupé, tu nous as déjà accordé beaucoup de temps, donc merci encore pour ça. Edouard Cissé m'a posé une colle tout à l'heure. Ça lui arrive souvent, il arrive comme ça avec des petites questions.
Souvent, c'est quand je te pose une question, c'est une colle.
Voilà, c'est une colle. Voilà. C'est vrai que la moindre question peut vite être une colle. Voilà, je te rejoins sur ça. Non, mais il m'a, en préparant un petit peu l'émission, il me dit, on parlait de ton parcours, du fait que tu étais dans le divertissement, etc. Est-ce que le football, il doit être perçu aujourd'hui comme un divertissement? Elle n'est pas simple. Hein.
Non. Tout le monde dit que c'est un spectacle et que ça va être considéré comme une industrie du spectacle. Pour moi, ça doit d'abord être, du sport et du plaisir. Et maintenant, l'argent qui est mis au centre de la table fait que ça devient un divertissement. Mais je pense que si vous perdez l'essentiel, c'est-à-dire que c'est un jeu et c'est du sport, vous avez tout perdu. Et le trop-plein aujourd'hui dans lequel on rentre, de vouloir à tout prix faire un divertissement avec tout ce qui va autour, l'outil audiovisuel et tout ça, on va tout perdre. Il faut revenir aux fondamentaux. Ça, c'est ce que je pense.
Ouais.
J'étais ravi et très flatté de pouvoir échanger avec vous.
Ah, mais tout le plaisir était pour nous. Et on souhaite le meilleur au Stade Malherbe. Et on passera, vous
voir. Allez venir voir surtout un match.
Si on est invité.
Vous êtes invité.
Ok.
Alternative football.
Beaucoup en parlent.
On parle de l'effectif, de la gestion de l'effectif.
Crois-moi, ils jouent les deux contre les gars.
Mais peu le connaissent vraiment.
Parce que tu sais que malheureusement, il n'y a pas que le foot dans la vie.
Alternative football.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Megan Rinks.
And I'm Melissa D. Montz.
And like every other person with access to a microphone, we started a podcast.
On Mondays, we release Don't Blame Me, which is an advice podcast where listeners call in and we share our thoughts on situations such as what to do if you're going to your boyfriend's family function and you haven't told him that you previously slept with both his twin brothers.
Then on Thursdays, we release our podcast, But Am I Wrong?, where we ethically gossip about pop culture, politics, our lives, and your lives. Listeners write in and we tell them if they're wrong or right in a situation. Are you the hero or the villain?
On Tuesdays and Fridays, we throw in a little something extra as well.
Well, something, something. We strive to create a community grounded in activism, mental health, and inclusivity. Think of us as like your blunt, honest friends who give you advice that you need to hear, not what you want to hear. But we're also always rooting for your success. What we lack in credentials, we make up for in...
opinions.
We do that in every episode, too.
We're professional, unprofessional, so if you're looking for a new slate of podcasts to add to your routine, we're here for you.
Acast recommends.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.